Alors, je vais passer maintenant la parole à François de Mazière. Donc voilà, je vais me présenter, maire de Versailles, député de la première circonscription des Yvelines, grand acteur des politiques culturelles, et puis je voudrais aussi souligner que François de Mazière est notamment celui qui a insisté aussi pour qu'il y ait un retour des financements de l'État dans les conservatoires. C'est un des acteurs essentiels de ce retour du financement de l'État. Voilà, on avait envie de vous inviter parce qu'on a apprécié aussi les propos que vous avez pu tenir lors des commissions sur la loi LCAP. Voilà, et là on dépasse les clivages politiques, on est aussi sur des choses essentielles de la culture, parce que même vous aviez des opposants politiques qui partageaient votre pensée aussi, et je crois que c'est tout à fait intéressant. Voilà, peut-être pour nous faire un bref, on va dire, historique des politiques culturelles depuis ces dernières décennies, on va dire, et puis peut-être d'avoir aussi votre point de vue. Moi, j'avais envie de vous interroger, votre point de vue de maire, c'est-à-dire, et je sais en plus que vous êtes attaché au conservatoire, parce que je crois aussi au théâtre, d'ailleurs, mais vous allez nous en parler, pour avoir votre point de vue de maire, c'est quoi ces outils conservatoires? C'est quoi? Comment il faut les défendre? Pourquoi une mairie a envie de défendre ces outils, que moi j'ai envie d'appeler ces outils formidables? Ils existent. Pour beaucoup de communes, aujourd'hui, on entend que c'est une charge, hein, on l'entend. Alors comment on peut transformer cette idée que c'est une charge en idée plus positive, que c'est au contraire un outil formidable qui existe au sein des communes? Voilà, j'ai envie de vous interroger déjà là-dessus. Et comment ces outils-là, en les préservant, on garantit en tout cas une liberté d'apprentissage aux jeunes gens qui sont présents sur les territoires, et surtout les territoires, parce que nous, à l'INPAM, nous sommes attachés à l'enseignement autant dans les grandes métropoles que dans les zones rurales. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Eric. Merci de votre invitation. Et puis j'étais très intéressé par ce que vous disiez là. Moi, il y a une expérience récente qui me fascine un petit peu avec mon épouse qui est moitié allemande. On a vécu qu'en Allemagne, dans les écoles, on faisait lire au doigt les enfants. Et en fait, ça permet, si vous voulez, de sensibiliser tous les enfants à la lecture et s'organiser au niveau des villes, puis ensuite au niveau national. On a essayé de recréer ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la finale a lieu à la Comédie française. Il y avait la ministre de l'Éducation nationale depuis 2 ans. Eh bien, c'est assez fascinant. Pourquoi c'est fascinant? C'est parce qu'on a fait au niveau du CE2, et ces enfants sur la scène de la Comédie française, ils n'ont aucune forme de trappe. C'est fascinant. C'est fascinant parce que quand on voit effectivement après, avec l'adolescence, c'est effectivement le rapport à l'autre, et c'est surtout le rapport à soi-même, en fait. C'est la conscience de son corps, on est mal à l'aise avec soi-même. Que l'enfant à 11 ans, enfin même pas 11 ans, 10 ans, il est totalement capable de jouer sur la scène Comédie française. C'est renversant. Les finalistes, ils sont 10, il n'y en a pas un qui se reprend, qui fait la lecture. Bon. Donc c'est très intéressant parce qu'effectivement le théâtre, il se trouve, moi pourquoi je suis au théâtre, il faut être clair, c'est que je suis passé par un conservatoire. Dans ma ville, à Versailles, il y avait un conservatoire assez exceptionnel et qui était dirigé par une femme de théâtre, qui s'appelait Marcel Tosson, une grande dame du théâtre. Et dans ce conservatoire, c'est vrai, il avait un très haut niveau à cause de cette professeure exceptionnelle, habitée par le théâtre. Et vous avez beaucoup de grands acteurs français, actrices, qui sont sortis de ce conservatoire. Et moi, j'ai eu la chance d'y rentrer très jeune. J'ai rentré à 13 ans parce que je pense que Marcel voulait trouver un enfant pour une adaptation. J'imagine qu'elle voulait trouver pour un monterne ou quelque chose comme ça. Finalement, je ne devais pas être assez bon, je n'ai jamais fait, heureusement. Mais j'ai toujours été très attaché à cet enseignement et surtout, l'ayant vécu, je sais ce que ça peut apporter aux gens. Alors, le rôle de l'enseignement est fondamental. D'ailleurs, vous disiez, il y a un mot qui m'a frappé dans ce que vous disiez tout à l'heure, je l'ai noté au passage, il y a aussi cette capacité aussi jubilatoire. Ça, vous qui êtes enseignant, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est important aussi qu'il y ait cette capacité jubilatoire. Parce que souvent, on peut avoir la tendance du théâtre contemporain, c'est une tendance, comme le monde est angoissant, on reproduit une angoisse. Et je crois que c'est important aussi de garder cette jubilation qu'on trouve dans la comédie, au fond. Ce qui est merveilleux dans Molière, c'est que j'ai créé il y a 20 ans un festival, ça s'appelle Moi Molière, parce qu'on doit lui rendre vraiment l'hommage, bien sûr, tout le théâtre français, mais c'est un hommage que chacun d'entre nous peut faire très personnel, parce que ce qui est formidable dans Molière, c'est cette capacité de traiter les angoisses du monde et d'en sourire. Et c'est cette capacité, finalement, de nous donner à aimer des personnages qui, parfois, sont un peu détestables. On sait bien, on arrive toujours, finalement, à 20 ans. Et l'enseignant de théâtre, il me semble que c'est important de garder ça, de ne pas, finalement, que nos angoisses d'adultes, il faut faire attention, à pas aussi qu'on les transmette trop. Je peux pas dire ça parce que je vis encore beaucoup. Là, vous voyez, chaque année, je viens, j'ai une fille, on vient depuis 10 ans ensemble, j'ai vu le processus d'adolescence, c'est compliqué. On est venu avec des amis, là, on emmène toujours les enfants avec ma femme. Et c'est vrai que le théâtre est une ouverture extraordinaire, mais on est d'une sensibilité à l'adolescence, au texte. Il y a des textes qui peuvent vous bouleverser très profondément, enfin, vraiment qui peuvent vous trahir toute une vie. Hein. C'est des moments comme ça sans qu'on s'en rende compte. Mais. Donc voilà, c'est un moment essentiel. Alors, j'ai dit ça parce que, au fond, tout le combat qu'on peut mener à plusieurs, si vous voulez, pour les concertants, pour le théâtre dans les concertants, parce que souvent on voit d'abord la musique, hein, la musique est effectivement l'enseignement numéro un de tous les concertants, ça les gens considèrent presque normal. La musique doit faire partie de l'enseignement du concertant. Le théâtre, déjà, il y a un peu plus de doute, en disant oui, bon, est-ce que c'est vraiment indispensable? On est à un moment charnière, qui est dangereux pour tout cet enseignement, il ne faut pas se le cacher. On l'a vécu récemment. Et pourquoi ce moment est-il dangereux? C'est parce que vous avez une évolution aujourd'hui, c'est que les collectivités locales sont soumises à des contraintes financières qui sont tout à fait nouvelles. Elles sont considérables, il faut le savoir. Et donc, vous avez eu une baisse des recettes qui vient notamment de la dotation globale de fonctionnement, cette dotation qui est versée par l'État. Dans le cas des économies budgétaires faites au niveau national, on a beaucoup diminué les dotations globales de fonctionnement. Les coupes sont très sévères. Et dans certaines villes, comme la mienne, par exemple, ça peut atteindre plusieurs points d'impôt. On a perdu en 3 ans l'équivalent de 30 points d'impôt. Vous voyez, il faudrait que pour que je compense ce qui nous a été pris au niveau des baisses de l'État comme des phénomènes de redistribution, il faudrait qu'on augmente de 30 points d'impôt. Or, c'est évident, aujourd'hui, les gens demandent qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts. Donc, nous sommes dans un moment de tension budgétaire qui sont réelles. On ne peut pas dire aux élus, attention, vous n'avez pas cette difficulté face à vous. Ce qui veut dire qu'effectivement, le combat culturel devient un combat de militants. Parce que la population, elle compense d'abord, n'augmentez pas ma fiscalité dans un moment difficile. Et vous avez une sorte de résistance de très nombreux élus, parce qu'ils considèrent qu'effectivement, la culture est fondamentale. Et ça sort, que ce soit de gauche comme de droite, c'est pas un sujet. C'est des questions d'engagement personnel d'élus. Vous avez cette difficulté, elle est indéniable. Et vous avez eu un moment très dangereux, c'est-à-dire c'est que dans la loi de 2015, la loi de finances 2015, donc je suis parlementaire, je suis aujourd'hui non inscrit, mais apparenté, si vous voulez, à un groupe d'opposition. Et j'ai porté ce débat parce que dans la loi de 2015, loi de finances, soudain, je me rends compte qu'il y a une ligne budgétaire avait disparu, qui était celle qui permettait le financement des conservatoires. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, l'État s'était totalement désengagé. Alors, bon, ce n'est pas des financements qui étaient considérables. En 2010, 2011, 2012, ils étaient aux environs de 30 millions d'euros. Mais ils étaient très importants, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'au fond, la difficulté aujourd'hui, dans les villes, c'est de se dire que tous les niveaux de formation sont financés uniquement par les villes. À la limite, vous pouvez avoir des raisonnements qui consistent à dire « je dois former les enfants » à une formation qui tient lieu plutôt de la sensibilisation. Parce que ça fait partie effectivement de la mission d'une ville. Par contre, plus vous montez un niveau de qualification, plus c'est difficile. Quand vous avez un conservatoire à rayonnement régional, c'est très difficile à expliquer aux gens que l'ensemble des gens qui sont formés, qui peuvent venir, évidemment, pas uniquement la ville, autrement ce n'est pas un conservatoire rayonnement régional, soient financés uniquement sur la ville. Quand vous avez un conservatoire, un rayonnement départemental, c'est un peu la même chose. Et donc, on arrive à un moment très complexe aujourd'hui où l'État demande quelque part que l'effort soit fait quasi exclusivement par les collectivités, même si c'est un enseignement qui dépasse le cadre de la sensibilisation de ville. Ça a été un problème majeur, et au fond, je vous le dis ça pour que vous compreniez toute l'évolution législative ces dernières années. Effectivement, j'ai eu l'occasion de vivre. Quand j'étais pendant des années adjoint à la culture, on va pas vous étonner, j'étais adjoint à la culture pendant deux mandats successifs dans ma ville, donc à Versailles, j'étais adjoint, et je voyais bien ce problème fondamental qu'on avait au conservatoire à vocation régionale. C'est-à-dire que je plaidais, bien sûr, pour maintenir les finances du conservatoire. J'en voyais la nécessité absolue, c'est ce que vous disiez, madame, sur le rôle par rapport aux jeunes, mais je dirais au-delà de ça, par rapport à ce qu'est la culture en France. C'est notre chance extraordinaire d'avoir une vitalité culturelle. Elle se nourrit aussi de ces formations. Donc je plaisais ça. Mais il y avait une chose que j'avais vraiment du mal à défendre, c'est qu'on finance les élèves qui venaient de l'étranger. On avait de très grandes classes, notamment en musique d'ailleurs, mais aussi en théâtre. Et les gens venaient aussi, comme c'était un concert de vocation régionale, ils venaient un peu partout. Donc c'est difficile. Donc il se trouve qu'après, j'ai présidé la Fédération des élus à la culture de France, qui était pluraliste d'ailleurs, et j'en ai fait un combat important de cette fédération, disons. Finalement, quand on parle de démocratisation culturelle, parce que c'est le grand thème depuis Malraux, la démocratisation culturelle commence d'abord par ça. Elle commence d'abord par ces enseignements qui sont la clé, finalement, de ce qu'est la démocratisation. Donc, vraiment, c'est devenu pour moi un combat un peu militant, si vous voulez, et il se trouve que par la suite, je suis devenu le conseiller culture du Premier ministre qui s'appelait à l'époque Jean-Pierre Raffarin. Il y a eu le deuxième tour de la décentralisation qui était dans l'année 2003. Et là, j'ai parlé au Premier ministre en disant, écoutez, moi je vis ça, si vraiment on veut faire quelque chose pour la culture qui soit vraiment efficace au-delà de l'effet d'annonce, parce que quelque part financer des conservatoires, c'est pas valorisant politiquement. C'est pas pour rien qu'en 2015, ça a été supprimé comme ça discrètement. Je peux même vous dire que personne s'en était aperçu. C'est en regardant les lignes budgétaires que je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne qui avait disparu. Et j'ai posé la question à l'époque à Fleur Pellerin. Et Fleur venait d'arriver. Je dis Fleur parce que je la connais. Et j'ai vu que Fleur elle-même était surprise. Elle prenait connaissance finalement de son budget, parce qu'elle venait d'être nommée. Et donc, la réponse qui m'a été dite, c'est parce que les conservatoires sont pas démocratiques, en ce sens, sont élitistes. C'était le grand thème, l'élitisme des conservatoires. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est pareil. Et on a organisé un colloque, où vous étiez, hein, Marie-Claire, j'ai organisé un colloque, c'est vraiment, là aussi, n'y voyez pas un discours militant politique, voyez un discours d'un militant qui aime la culture profondément et qui a vécu les conservatoires. On a organisé un colloque avec justement ceux qui profitent, au bon sens du terme, hein, les enfants qui sont formés, donc les associations, AIFUS, les enseignants, etc. Et j'ai invité quelques grands témoins. J'ai invité pour le théâtre Muriel Mayette. Muriel, elle avait été aussi au Conservatoire, le même de Versailles. Elle était formée au Conservatoire. Et je lui dis, viens parler de ça, viens dire. Bon. Et elle avait, comme grande actrice, comme tout le monde. Et puis il y avait aussi Hervé Niquet. Hervé Niquet, c'est son musicien. Et Hervé, il a pris témoin. Il dit, écoutez, moi, je suis d'un milieu extrêmement sain, extrêmement sain. La musique, personne ne le connaissait chez moi. Mais il se trouve que le conservatoire, il valait 25 francs à l'époque. Puis même, c'est après, il en valait 23 francs. Ça, mes parents, ils pouvaient. 23 francs, droit d'inscription sur les 23 francs, ça marchait. Et Hervé, c'est un des plus grands musiciens aujourd'hui. Il a une générosité, il a une envie de faire parler. Et donc voilà, il y a une prise de conscience, objectivement, hein, une prise de conscience. Et les ministres aussi, d'ailleurs. Hein, se dit, et Fleur a dit, on a fait l'erreur. Elle héritait là un peu de ce qui avait été fait. On a fait une erreur. Bon. C'est pour dire que c'est, on est dans un moment, et la ministre actuelle a confirmé en disant il faut reprendre les fonds sur les conservatoires. Mais je reviens maintenant à la question que je vous disais, les évolutions législatives. Pour vous parler de la dernière loi, qui est la loi dite CAP, création, architecture, patrimoine. Cette loi, elle commence par l'article 1er, qui est la création est libre. C'est un très beau sujet, c'est magnifique la création libre. Je crois qu'on est tous d'accord, personne n'a voté contre la création libre. Le seul problème, c'est que, pour moi, ce qu'il est, c'est un très beau, très bel affichage, mais le vrai problème de la création, objectivement, si on la veut libre, c'est qu'on lui donne des moyens d'être libre. Donc, vous savez, c'est la phrase du marché, hein, c'est bien beau, mais il faut pouvoir manger. Donc, hein, c'est ça la liberté. Donc, il est essentiel qu'on maintienne tous ces financements. Et alors maintenant, si on reprend donc, l'évolution des lois, quand j'étais en 2003, on a intégré dans la loi à l'époque un train de décentralisation. Pourquoi ? Pour dire que ce qui était l'enseignement pré-professionnel, c'est-à-dire le troisième cycle, il devait être financé au titre de la formation professionnelle, comme pour le reste de la formation professionnelle. La formation professionnelle est assumée par qui ? De façon obligatoire par les régions. Et donc le raisonnement était de dire, si on veut avoir de l'argent, il faut qu'il soit réparti entre les différents niveaux de collectivité. Donc les régions doivent avoir l'obligation de financer l'enseignement artistique à travers les conservatoires, comme il y a une obligation pour le reste de la formation professionnelle. La loi a été votée, et la loi de 2003 intègre cette obligation. Le seul problème, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée. Parce que le problème, si vous voulez, des lois de décentralisation, c'est qu'il faut que, quand il y ait une obligation créée pour un niveau de collectivité locale, il y ait transfert des financements correspondants. Et là, il n'y a pas eu de transfert des financements correspondants. Et on est arrivé à ce système un peu baroque. Vous avez deux régions qui ont été des régions test, dans lesquelles on a mis en place ce type d'organisation. Ça a bien fonctionné, d'ailleurs. Ça a très bien fonctionné. Mais dans le reste, ben, il ne s'est rien passé. Moi, en Île-de-France, il y a zéro. L'Île-de-France, depuis 20 ans, il y a zéro sur l'enseignement dans les conservatoires. Ouais. Et d'autres, quelques régions. Donc, on arrive à ce paradoxe. La loi CAP arrive, et donc moi, c'est vrai, je me suis battu beaucoup pour qu'on introduise un article 17.1 sur les conservatoires. Parce que dans la première loi, il n'y avait rien sur les conservatoires. On faisait la liberté création libre, mais il n'y avait rien sur le conservatoire. Et même, on avait symboliquement supprimé les derniers financements de l'État. Et si un jour, vous voulez que les choses soient vraiment efficaces, il faudra tout de même qu'il y ait une claire répartition des compétences, que l'enseignement troisième cycle, ben, il ne soit pas assumé par la petite commune ou la commune. Il n'y a pas de sens, puisque c'est un enseignement qui va au-delà de l'impact d'une commune. Et il faut que les communes, par contre, soient très présentes sur le financement qui est de leur compétence, c'est-à-dire la sensibilisation premier, deuxième niveau, premier, deuxième cycle, en gros. Ça, oui, il faut une exigence là-dessus. La loi CAP, donc, introduit le 17 ans, mais c'est vrai, parce que je sais que vous vous passez beaucoup pour ces sujets-là, mais bon, voilà, c'est comme ça, ça a été difficile. C'était un grand combat pour nous et pour Catherine Morin-Desailly, parce que depuis des années, avec la présidente de la Commission des affaires culturelles du Sénat, on partageait ce même point de vue. On avait été ensemble, quand je présidais la FNCC, elle était vice-présidente de la Fédération nationale de l'activité de territoire pour la culture, qui rassemble les élus à la culture, quelle que soit leur conviction politique. Et donc, c'était un combat qui nous était vraiment très cher. On s'est battu pour qu'il y ait cet article 17.1, et en fait, la dernière version, c'est qu'on laisse la liberté aux régions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation pour le coup, le texte n'oblige plus. Ah, je dois dire, pour moi, c'est un grand danger. Je suis désolé de vous parler à ce point de technique, mais c'est ce qu'Eric m'a demandé pour faire un point très précis. La dernière version, c'est qu'en fait, vous avez. Il y a une possibilité qui est offerte aux régions de financer ou de pas financer. Moi, je dois dire, pour moi, c'est un vrai regret. Parce que je pense que d'une des fiertés de la France, c'est qu'on avait le même enseignement dans tous les départements. Et cette exigence, finalement, que où vous soyez sur le territoire, vous allez pouvoir suivre, et si vous avez vraiment envie de devenir acteur, parce qu'il y a le talent, bien sûr, qui est nécessaire, mais aussi envie de partager cette vie. Et si vous avez ça, il faut que vous puissiez progresser dans la formation. Aller d'une formation initiale à une formation de plus en plus pointue, fine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce qui existera, vous aurez des régions qui s'engageront sur la culture et d'autres qui continueront à ne rien faire à travers leurs consultants. Je pense, pour moi, c'est vrai regret. Et d'ailleurs, je l'ai exprimé hein, dans mes prises de parole. Le 17A est déjà une reconnaissance importante, tardive, mais on a fragilisé quelque part un système. Et je pense que tout simplement, l'État n'a pas connaissance. En réalité, quand vous êtes responsable, vous connaissez de façon assez vague, finalement, hein, ce fonctionnement des conservatoires. Il faut le vivre comme vous, il faut sans doute être élu local pour le partager. Les élus locaux comprennent mieux ce genre de choses parce qu'ils le vivent sur les terrains, mais l'évolution politique fait que vous aurez de moins en moins de parlementaires élus locaux. Ça, il faut bien reconnaître, c'est l'évolution, vous aurez de plus en plus de parlementaires politiques professionnels de par la loi sur le cumul. Et ça, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit toujours opportun. Et là, vous en avez vraiment une démonstration. Alors moi, c'est vrai que dans notre commission des affaires culturelles, sur ces sujets-là, on voyait très bien ceux qui étaient élus de terrain, qui comprenaient ce type de raisonnement, surtout s'ils avaient été en charge des affaires culturelles dans leur ville, et puis les autres qui comprenaient un peu moins bien. Voilà, vous m'avez demandé de faire un point, c'est un peu aride, mais c'est aussi ce que vous m'avez demandé de faire. En tout cas, sachez que pour moi, si vous voulez, ces enseignants, vous avez un rôle majeur en tant qu'enseignant. Vous avez un rôle qui peut toucher profondément une vie. J'étais dyslexique, moi, mais il se trouve que j'adorais le théâtre très tôt, puisque je rentrais à 13 ans. Mais au fond, je n'ai jamais voulu être vraiment acteur, parce que je n'aimais pas jouer la comédie, en sens, j'étais gêné par ça. Mais par contre, j'ai toujours eu cette passion du texte et de vivre ce que représente le théâtre, c'est-à-dire cette capacité de vivre des émotions très fortes et surtout, au fond, de vivre tout ce qu'on n'aime pas dans la vie, tout ce que l'on rejette, ce que l'adolescent rejette, mais il est médiatisé. Et donc, il y a un effet de rejet et force sympathique dans le théâtre. Voilà. Et ça permet de vivre cette envie d'absolu qu'il y a dans le théâtre, qu'il y a dans l'homme. Ça permet de le vivre après. Et donc, vous avez un rôle majeur. Mais gardez chez vos élèves la capacité aussi, que vous disiez, d'enthousiasme et de rire. Que le théâtre continue aussi, après nous avoir fait pleurer, il faut aussi qu'il sache nous faire rire.
Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est pas du tout aride, je crois pas. Au contraire, ça replace un endroit très technique et vous le faites de façon très pédagogique, je trouve. Quelles sont les responsabilités des différents échelons aussi territoriaux, enfin des territoires et de l'État, etc. Et notamment, garantir la liberté aussi d'enseignement, c'est finalement... Ce que vous dites, ce que j'entends, c'est aussi pouvoir imposer aussi par des lois à certaines strates comme ça des territoires des choses qu'elles ont à faire, des obligations qu'elles ont à faire. Notamment, vous en parlez vis-à-vis des régions qu'elles financent, les cycles spécialisés. Alors, je pense qu'on serait assez d'accord pour soutenir quand même cette idée. Voilà, parce qu'on est vraiment confronté à ça. Nous, clairement. Dans nos postes aussi souvent de responsables pédagogiques, de département art dramatique, etc. En plus, l'art dramatique, on travaille beaucoup avec l'extérieur, sans doute plus que les musiciens, parce que quelquefois on n'a pas toujours des locaux, tout ça, donc on travaille avec les théâtres, tout ça. Donc on est souvent à l'endroit du politique aussi, on est à cet endroit-là, et on doit souvent, on entend souvent ça, c'est-à-dire que finalement, chacun se renvoie la balle d'une collectivité à l'autre. Et je trouve que, voilà...
Surtout en période de crise.
Et oui, bah oui.
En période de crise, c'est très dangereux. La liberté en période de crise financière...
Voilà.
Et il vaut mieux être dans un cadre obligatoire, parce que là, vous ne discutez pas. Et on le voit bien. Combien de départements aujourd'hui disent c'est pas une la culture n'est pas une compétence obligatoire. Et donc, moi, je l'ai vécu sur mon département. Le conservatoire, nous recevions 350 000 euros chaque année pour le CRR, et cette année, zéro. Et pourtant, avec mes collègues, je préside mon interco, parce qu'il est intercommunal. On a décidé de maintenir le niveau. Mais,
c'est un choix.
Jusqu'à quand
c'est un choix qui vient d'un territoire, mais qui ne garantit en rien l'équilibre territorial républicain sur tous les territoires. Et évidemment, nous, à l'ANPAD, on est quand même très attachés à ça.